Alors, notre astronaute québécois est toujours dans l'espace. Ça se passe toujours bien pour lui dans cette première sortie dans l'espace. C'est assez fascinant quand même d'être dans la Station spatiale internationale, d'ouvrir la porte et puis de sortir comme ça. Évidemment, c'est un travail qui va lui prendre plusieurs heures encore jusqu'au milieu de l'après-midi à peu près. On vous tiendra au courant, bien sûr. Moi, je suis fascinée par ça et je sais que vous l'êtes aussi. Ça semble quasiment plus facile faire sa job que d'être sur les routes en ce moment parce que je sais que peu importe où vous êtes, c'est excessivement glacé. Alors faites très attention. La pluie verglaçante peut occasionner beaucoup de problèmes sur les trottoirs également. Et ça tombe bien parce que notre prochain sujet, on va parler de ça. On va parler des douleurs que vous pouvez vous causer si vous tombez aujourd'hui, mais aussi plus largement, on va parler de tous ces maux de dos, de reins, les maux en général qu'on peut ressentir et qui fait que des fois, quand vous allez voir votre médecin, il vous dit « ben oui, mais c'est normal ». À votre âge, c'est normal. Vous avez plus de 40 ans, normal que ça commence à faire mal, hein? Parce que, comme si le corps humain, on supposait qu'on avait une date de péremption, puis qu'au bout d'un certain temps, ben, la machine est moins huilée et c'est normal d'avoir des bobos. Quelqu'un qui est vraiment en opposition avec ça, c'est Denis Fortier. Vous le connaissez bien. C'est un physiothérapeute qui vient régulièrement à mon émission. J'aime beaucoup te recevoir, Denis, parce que je trouve que tu nous règles des affaires. Puis en ce moment, il y en a pas tant que ça, des personnes dans le système de santé qui nous règlent nos problèmes.
Ça me fait bien plaisir d'être avec toi, avec vous tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. On parle de David Saint-Jacques. Hein. Lui, dans l'espace, son corps se transforme. On le sait, ça.
Mais c'est vrai, ça. Hein?
Mais le corps, c'est une machine qui s'adapte négativement si on fait rien et positivement si on fait quelque chose.
Mais il paraît que c'est très dur pour le corps des astronautes. Là. Il y a comme une espèce de... Ben, explique-le, là, qu'est-ce qui se passe avec
c'est extrêmement dur. L'absence de gravité, pour le résumer beaucoup, l'absence de gravité, l'absence de stimulation de la gravité fait en sorte que le corps a certains dommages, entre autres au niveau des disques intervertébraux. Et le livre que j'ai écrit, le titre, c'est normal à votre âge, point d'interrogation, mais c'est de se dire qu'ici, sur Terre, notre corps a des capacités réparatrices que David Saint-Jacques est privé un peu de ces capacités-là, en quelque sorte. Donc, sur Terre, on a ces capacités réparatrices-là.
Il paraît que les astronautes, quand ils reviennent, d'ailleurs, c'est presque à vie, là, les dommages.
Le risque de hernie discale, le risque de problèmes musculo-squelettiques est vraiment très, très élevé pour plusieurs années. Ils ont une longue période de rééducation. Donc,
tu parles de réparation, est-ce qu'ils peuvent se réparer tout de même?
Mais tout à fait. Ouais. Le corps est capable de se réparer. Donc, moi, j'ai des patients toutes les semaines qui me disent, je me suis fait dire à 35 ans, 40 ans que c'est normal d'avoir mal aux genoux, d'avoir mal aux épaules. L'idée, c'est pas de se mettre des lunettes roses puis dire on est parfait, on est intouchable. Mais ces capacités réparatrices-là, il faut miser là-dessus. Et dans mon livre, c'est ce que j'explique. Je donne des conseils précis parce qu'il y a des choses à faire. Et nous, comme professionnels de la santé, on n'a pas le droit de limiter l'âge, de décrire l'âge comme une limite de vitesse. Rendu un certain chiffre, on serait plus capable de faire telle ou telle chose. C'est faux. Et scientifiquement, on sait que c'est faux.
OK, mais pourquoi on nous le dit si c'est faux à ce moment-là, Denis Fortier? Pourquoi les médecins... Écoute, on l'entend beaucoup.
On l'entend beaucoup.
On l'entend d'ailleurs beaucoup pour les gens âgés, mais on l'entend de plus en plus jeune, il me semble.
Moi, il a fallu que je me déchoque avant de commencer à écrire ce livre-là, parce que je veux dire, on se calme, j'ai l'air de mordre dans quelque chose pendant que j'écris. Pourquoi on le dit? Pour plein de raisons. Est-ce qu'on le dit pour passer au suivant, pour sauver du temps? Parce que derrière la phrase, c'est normal à votre âge, il y a aussi, on peut rien faire pour vous, merci, bonjour, on passe au suivant. Il y a peut-être de l'incompétence parfois. Il y a peut-être d'autres raisons aussi, il faudrait demander à ces personnes-là qui le disent. Il y a d'autres personnes aussi qui le disent pas. Faut pas oublier ça. Et aussi, Isabelle, on entend ça depuis qu'on est tout petit. Et moi, je l'entends aussi de la bouche de mes patients qui se font dire depuis qu'ils sont tout petits, c'est normal à 40, 50, 60 ans. Et on finit par intérioriser ces stéréotypes-là et se transmettre à soi-même. J'ai des patients qui viennent me voir, par exemple, parce qu'ils ont une fracture, peu importe de quel os, et ils me disent, j'ai mal au dos, mais ça, je consulte pas parce que c'est normal. Donc, eux-mêmes, ils ont intériorisé ces stéréotypes-là. Et une des raisons pour lesquelles on le dit, c'est que on n'est peut-être pas encore au fait des nouvelles avancées scientifiques qui nous disent que non, on ne devrait pas dire ça et on devrait plutôt proposer des solutions thérapeutiques efficaces.
Voilà. Tu parles d'âge physiologique dans ton livre. Moi, j'aime beaucoup cette donnée. D'abord, c'est parce que l'âge de naissance, souvent, il n'y a pas rapport.
Il n'y a absolument pas rapport. Moi, j'ai travaillé aussi...
Il y a des gens qui ont des corps qui ne fitent pas avec leur âge.
Ben non, ça marche, l'âge chronologique, jusqu'à à peu près 12-18 mois. Hein? Parce que,
c'est tout? Ben, c'est pas long?
On marche tous à peu près là, entre 12 et 18 mois. À 3 mois, on fait tous à peu près la même chose. Mm-hmm. Mais rendu à 50, 60 ans, notre corps est tellement influencé par ce qu'on a fait, par ce qu'on n'a pas fait. Mm-hmm. Donc, moi, l'âge de mon patient chronologique, oui, on le note, mais c'est peut-être pas ça qui est le plus intéressant. On devrait peut-être plutôt demander à nos patients, c'est quoi vos capacités fonctionnelles? Ouais. Est-ce que vous êtes capable de monter 3 étages? Est-ce que vous êtes capable de courir? Il y a des auditeurs qui nous écoutent qui ont 50, 55, 60, c'est pas très vieux, on s'entend, et qui courent plus. Moi, quand j'étais adolescent, mes grands-parents couraient pas. Okay? Ils bougeaient pas très rapidement. Et je pensais qu'ils étaient atteints d'une maladie. Pour vrai, tu sais, je pensais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. J'avais comme intériorisé qu'une personne plus âgée courait pas. Mais mes grands-parents, à ce moment-là, avaient à peu près 68, 69 ans. Et il leur restait, à ce moment-là, c'est dans les années 70, il leur restait à peu près 5, 6 ans à vivre.
C'est tout, ouais.
Parce que l'espérance de vie, on l'oublie, ça a augmenté vraiment beaucoup. Mais entre autres, à cause de ces capacités réparatrices-là.
C'est vrai qu'on a pris 7-8 ans depuis, là. Ben, depuis cette génération.
Depuis les années 70, mais depuis le siècle passé, on a pris 30 ans quand même.
C'est incroyable.
Oui, et dans les capacités réparatrices, il y a vraiment une structure dans notre corps sur laquelle il faut miser pour préserver notre santé, c'est notre cerveau. Et ça aussi, on oublie à quel point le cerveau s'adapte. On parle souvent de la maladie d'Alzheimer, qui est absolument, c'est un fléau, c'est absolument terrible. Ça gâche la vie des personnes qui sont atteintes, mais de leur famille. Mais est-ce qu'on sait que la période d'incubation, c'est peut-être pas le mot juste pour l'expliquer, mais ça le résume bien. Donc, la période pendant laquelle les signes au niveau de notre cerveau s'installent, ça peut aller jusqu'à 20 ans avant le début de l'apparition de la maladie. Et c'est pendant ces 20 ans-là que c'est important de faire de la prévention pour voir les symptômes arriver le plus tard possible. Ça, on ne sait pas ça. Donc, il faut le dire. Je pense que dans un livre sur 200 pages, on a le temps de le dire. Mais donc, cette capacité-là du cerveau de s'adapter, entre autres en raison de nos habitudes de vie, le fait de, par exemple, faire de l'activité physique, ça a un effet sur notre cerveau. On ne le voit pas. Mais la vascularisation du cerveau s'améliore, la santé du cerveau s'améliore. Donc, le fait de pratiquer une activité physique régulièrement a des bienfaits sur le cerveau et possiblement sur la prévention. Ou en tout cas, le fait qu'on repousse l'apparition des symptômes de la maladie d'Alzheimer, c'est vraiment pas un détail. Si j'inventais une pilule qui fait ça, je serais multimilliardaire.
Ouais.
Mais nos habitudes de vie sont directement reliées à notre santé et on fait souvent le lien avec la santé et les médicaments. C'est une chose, je suis absolument pas contre les médicaments, du tout, du tout. Mais aussi, c'est vraiment étroitement relié à nos habitudes, à ce qu'on fait. Et je pense qu'on a besoin de se faire parfois guider, savoir qu'est-ce qu'on doit faire exactement pour préserver notre santé.
Je reviens sur l'âge parce que au début de ton livre, tu parles de... Moi, ça m'a beaucoup intéressé quand tu parles de l'hégémonie de l'âge chronologique, quand tu parles du fait qu'on vante beaucoup le mérite de la jeunesse. Mmh. C'est comme si on... Mais c'est sûr qu'en faisant ça... On tombe vite dans le dénigrement de tout ce qui prend de l'âge et tout ce qui vieillit. C'est pour ça qu'on assiste dans la société. Il faut quand même le reconnaître. La société québécoise fait souvent preuve d'âgisme.
Complètement.
Il y a du jeunisme aussi, là, c'est-à-dire du dénigrement des plus jeunes pour toutes sortes de raisons, entre autres du marché du travail. Mais il y a quand même plus, j'ai l'impression, d'âgisme. Et l'âge, tu dis, il y en a 4 phases dans l'âge. C'est-à-dire, il y a 4 façons de voir l'âge.
Oui.
Et là, on vient de dire chronologique, c'est-à-dire votre âge. Vous avez 38 ans, mettons. Mais vous avez l'âge physiologique.
Oui, l'âge physiologique, ça, c'est important. C'est comment notre corps, je parlais du cerveau tout à l'heure, physiologiquement, comment votre cerveau est en santé. Les muscles, moi, je vois des patients de 80, 85 ans qui ont des muscles qui sont aussi habiles, qui sont aussi en forme que de personnes de 30, 40 ans. Et souvent, c'est drôle, Isabelle, parce que souvent, ces personnes-là, c'est elles qui sont le plus insatisfaites. Ils disent, il me semble que je manque un petit peu d'équilibre. Puis là, je leur dis, écoutez, vous avez plus d'équilibre que quelqu'un de 30 ans, c'est quand même pas pire, ça va bien.
C'est parce que t'as 84
oui,
aussi.
Oui, c'est ça. Mais, et on voit ces personnes-là, donc, qui ont un âge physiologique ou un âge fonctionnel vraiment qui correspond pas à l'âge chronologique. Et on les voit, Isabelle, souvent comme des super-héros. Mm-hmm. Et moi, ce que j'ai voulu dire dans mon livre, et les gens qui nous écoutent, je veux dire, je le répète et je le répète, ces personnes-là qui font, par exemple, la course à pied à 80, qui vont nager, qui ont un esprit très, très, très vif, ben, c'est pas des surhumains puis des
c'est pas des surhumains. On peut tous être comme ça?
On peut tous être comme ça. Évidemment, il y a des facteurs génétiques. Je sais pas mettre des lunettes roses, mais oui, on peut tous être comme ça. Notre corps, c'est vraiment un exemple de durabilité. On est tellement habitué de jeter nos téléphones cellulaires après 3 ans qu'on a fini par nous convaincre que notre corps, à nous, doit être évidemment...
Sauf que c'est le seul qu'on a.
C'est le seul qu'on a, c'est ça.
On ne peut pas aller en acheter un autre au magasin.
Ah non, mais on peut faire des mises à jour, par exemple. Il faut faire les mises à jour.
Oui, c'est ça. Et l'âge fonctionnel, c'est quoi?
Ben, l'âge fonctionnel, en fait, je pourrais prendre l'exemple de, je disais tout à l'heure, de monter les escaliers ou de courir. Donc, si pour vous, c'est difficile de monter 3-4 étages, ben, faut voir pourquoi. Fonctionnellement, qu'est-ce qui vous manque pour être capable de monter les escaliers 3-4 étages?
C'est donc ton âge qui fait que tu peux faire quelque chose à cet âge-là, mais ça peut varier. Tu peux avoir, par exemple, à 25 ans, un problème fonctionnel.
Tout à fait.
Qui fait que pendant une couple d'années, tu vas être moins bien, mais ça ne veut pas dire qu'à 30 ans, ton âge fonctionnel va être le même. C'est-à-dire que ta capacité de fonctionner avec ton corps peut s'être réparée, comme tu dis.
Ah ben oui, peut être réparée. Et si à 25 ans, parce que, je ne sais pas, tu as eu un accident de voiture, ton âge fonctionnel est altéré, ben, c'est doublement important d'avoir une bonne rééducation après cet accident-là. Donc, l'âge fonctionnel, c'est être capable de marcher une certaine distance, c'est être capable de, je disais, monter les escaliers, de marcher rapidement, de se placer en position accroupie, de faire tous ces mouvements là. Et moi, j'ai plein de patients qui sont incapables à 40, 45, soit 50 en lien avec le surpoids, l'obésité, le fait qu'une faiblesse qui s'installe. Donc, l'âge fonctionnel, c'est ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, donc dans nos activités de tous les jours. Et ça aussi, ça s'améliore. Moi, j'ai des patients qui sont... Des fois, on se dit, bon, il faut y croire pour que ça marche. Là, ben, les autres, ils ne croient pas en tout, mais je les vois, puis ils me disent, ben, j'aimerais ça améliorer mon équilibre. Puis je leur dis, ben on va essayer, on va avoir des résultats dans quelques semaines, dans quelques mois, à court terme. Et dans bien des cas, ça fonctionne et eux sont les premiers surpris à avoir des progrès. Encore une fois, il ne s'agit pas de se dire, on ne vieillit pas. Moi, Isabelle, j'ai un vieux chien qui a 15 ans, un labrador. Ben c'est sûr qu'il n'y avait pas comme quand elle avait 2 ans. Bon, on vieillit tous. Ouais. Et c'est justement, le but de mon livre, c'est d'accepter ce vieillissement-là, mais de dire au monde qu'il y a des processus de vieillissement qui sont irréversibles. Les cheveux blancs, là, c'est une mauvaise nouvelle, je vous apprends aujourd'hui, mais on s'en sort pas des cheveux blancs. Les rides, c'est la même affaire. Mais pourquoi on ne se concentrerait pas sur les capacités ou plutôt les effets du vieillissement qui sont réversibles, comme la force musculaire, comme la santé du cerveau, comme notre endurance cardio-respiratoire. Ouais. Quand je travaille avec des personnes qui ne courent plus, parfois ces personnes-là ont 50, parfois un petit peu plus âgées, et quand ils ne courent plus parce qu'ils ont perdu de la force, ils ont perdu la capacité à accélérer. Ça fait un peu particulier de dire ça, mais ils ont perdu ça à force de ne pas le faire. Et quand ils retrouvent cette capacité-là, c'est absolument fabuleux d'assister à ça.
Mais là, tu dis que quelqu'un... Là, les gens vont nous appeler, là, hein? 514-790-9850. Vous pouvez faire le 1-866-790-9850 pour nous joindre sans frais partout au Québec. Là, il y a des auditeurs qui vont nous appeler pour dire hey, « moi, j'ai mal aux genoux. Ça vient de m'arriver. J'avais pas mal aux genoux avant. Là, j'ai mal aux genoux. C'est normal à mon âge. J'ai peut-être 50 kecs. C'est peut-être de l'arthrose. C'est ça? Ça serait de l'arthrose?
Ben, ça pourrait être ça vraiment 36 000 affaires. Ça pourrait être de l'arthrose.
Mais mettons ça, là. T'as mal aux genoux.
Ouais.
Est-ce que ça se peut que t'aies plus mal aux genoux si tu fais certains exercices? Est-ce qu'il y a moyen de corriger ça?
On est plus à risque d'avoir de la douleur avec les années qui passent, c'est sûr, d'abord, parce qu'on a eu plus vécu.
Même,
le corps s'use, on peut avoir eu des accidents, bon, etc. On est plus à risque. Sauf que c'est pas parce qu'on est plus à risque qu'il faut rien faire. Moi, ce que j'aime pas dans la
phrase. C'est pas une fatalité, c'est ça que tu dis.
Exactement. Ce que j'aime pas dans la phrase, c'est normal à votre âge, c'est le sous-entendu qui dit qu'il n'y a rien à faire. Donc, pour répondre clairement à ta question, je pense que si on a un professionnel de la santé qui nous dit ça, puis nous, on a mal aux genoux, puis on est là, c'est normal à votre âge, merci, bonjour, il faut d'abord exiger un examen clinique complet. C'est-à-dire d'avoir que le professionnel de la santé examine notre genou, si on parle de cette articulation-là, la mobilité, la force musculaire, les capacités fonctionnelles. Il faut que ce professionnel de la santé-là ait touché à notre genou pour savoir ce qui se passe. Oui, le vieillissement existe. J'aime bien donner l'exemple du réservoir à eau chaude, la tank à eau chaude qui coule. Ben, c'est pas parce que la tank coule qu'on peut pas la remplir. Il y a moyen aussi de fonctionner, même avec certaines difficultés. Et on arrive très souvent à contourner ça, pour parler de l'exemple d'un genou. Et souvent, si on vient à la douleur, ben peut-être que la douleur, là, ce qui dérange vraiment les gens, c'est avoir de la difficulté à dormir, c'est avoir de la difficulté à faire leurs activités quotidiennes. Si on arrive...
Mais c'est avoir mal.
Et c'est d'avoir mal, mais aussi que cette douleur-là empêche les activités de la vie quotidienne. Si on arrive à récupérer les activités de la vie quotidienne, de baisser la douleur de 1 ou 2, 3 points sur 10, déjà, ça fait une grosse, grosse différence. Ouais. Souvent, on peut diminuer la douleur encore plus.
Parce que c'est là, et là, t'as tout, c'est quasiment la moitié de ton livre qui parle des médicaments, parce que c'est une business, la douleur. J'allais dire au Québec, partout, je pense, là où il y a des pharmaceutiques. Mais disons que nous, ici, puis c'est documenté, on en avale beaucoup des médicaments.
On avale beaucoup, beaucoup de médicaments.
Et beaucoup d'antidouleurs.
Oui.
Avec tous les problèmes que ça peut avoir. Demain matin, on va parler, entre autres, de toxicomanes. Il y a des gens qui sont devenus des toxicomanes parce qu'ils ont pris tellement d'antidouleurs, l'oxycodone, toute la morphine, ben oui, des opioïdes, qu'aujourd'hui, on est face à une crise dont on ne connaît, dont on ne saisit même pas l'ampleur.
Tout à fait.
Et toi, tu le dis, là. Ben oui. Alors, le fait de nous dire, ben, c'est normal à votre âge, prenez ça. Tu sais,
mais c'est le côté.
C'est un vrai problème.
C'est le côté très pervers de cette phrase-là, voilà. C'est normal à votre âge. Donc, on donne des médicaments, puis ça s'arrête là. Oui, je ne suis pas contre les médicaments. J'ai des patients que je leur dis, prenez vos médicaments, on va se voir en physio.
Mais tu peux
ça
pas être toute ta vie sur de la morphine. Tu peux pas.
Ben, premièrement, je pense que les médicaments, ça diminue, ça traite parfois la douleur. Mais il faut aller à la cause de la douleur.
Exact.
Qu'est-ce qui cause la douleur? C'est la même chose pour les maladies chroniques. Dans mon livre, je parle beaucoup de maladies chroniques, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Il faut aller à la cause de ces problèmes-là qui sont des habitudes de vie à modifier, mais c'est la même chose pour la douleur.
Denis, bouge pas.
D'accord.
Bon, enfin, tu peux bouger parce que c'est bon pour ta santé de bouger. On a bien compris. Denis Fortier est avec moi, il est physiothérapeute. Il vient de publier « C'est normal à votre âge, arguments musclés pour prendre votre santé en main ». C'est publié chez Trécarré. En attendant, on va à la pause, on revient avec vos commentaires. Dites-moi, où avez-vous mal? Et surtout, est-ce qu'on vous a déjà dit ça? Bien, c'est normal à votre âge, mon petit monsieur, ma petite madame. 514-790-9850, 1-866-790-9850. À tout de suite. Avec l'âge, est-ce normal d'avoir des douleurs partout? C'est souvent ce qu'on nous dit, hein? Est-ce normal à votre âge? Qu'est-ce que vous laissez comme ça? Lynn, vous l'avez entendu, cette phrase de votre médecin ou d'un spécialiste?
Ah oh oui, je l'ai entendu. Bonjour, premièrement.
Ouais.
Est-ce que vous m'entendez?
On vous entend très bien, Lynn.
Oui. Bon, OK. Moi, avant 60 ans, j'ai 63, mais avant 60 ans, je faisais beaucoup d'activités physiques. J'ai me suis entraînée pour faire un 10 km de course. J'ai toujours été très active. Puis, j'ai commencé à avoir mal aux hanches. Je marchais peut-être 5, 7, kilomètres par jour. À un moment donné, je me suis mis à avoir très mal aux hanches, puis j'ai passé un IRM, puis on m'a dit, bah, t'as des tendinites puis des bursites, puis on dit, ben...
on peut rien faire pour vous, ma petite... Ouais, c'est ça.
Oui, exactement, puis j'ai eu des infiltrations et puis ça n'a rien donné pour moi.
Ouais, ça, c'est souvent ce que les médecins vont... Les médecins suggèrent ça, hein, des infiltrations de cortisone, par exemple, hein, Denis, c'est ça?
Oui, ça aussi, encore une fois, c'est pas nécessairement
mauvais. Merci, Lynn.
Mais moi, j'ai tout le temps de la difficulté d'entendre comme Lynn qui nous dit, ben, j'ai eu des infiltrations, bon, on n'a pas peut-être tout le portrait global, mais peut-être, oui, des infiltrations, mais une infiltration, ça ne rééduque pas. Ça ne vous donne pas de votre force musculaire. Il faut comprendre pourquoi la douleur, elle est là aussi. Il faut penser aussi au sommeil. Est-ce que vous dormez bien? Parce que c'est étroitement relié à la douleur. Donc, de prendre le temps de faire un examen clinique. Et si vous ne l'avez pas, cet examen clinique-là, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même pour essayer d'améliorer cette situation-là?
Qu'est-ce qu'elle pourrait faire, Lynn, par exemple?
Ben, d'abord, de vérifier si elle a sa force musculaire. Il y a des petits tests qu'on peut faire à la maison. Je donne des exemples dans mon livre, mais de prendre la position accroupie, est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on a gardé cette force-là? Est-ce qu'on a gardé la mobilité? Est-ce qu'on a l'endurance? Est-ce que si on fait une activité longtemps, est-ce que la douleur est associée à ça? Donc, d'essayer de démêler un peu et de mieux comprendre ce qui cause la douleur.
Donc, il faut aller voir un physio quand même aussi, peut-être pas se contenter de voir, d'écouter son médecin de famille.
Pour un problème
musculaire. Ou de pousser son médecin de famille en dire, regarde, fais-moi faire des tests plus poussés.
Ben oui, c'est ça. Et j'insiste sur l'examen clinique parce que ce qu'on sait maintenant, il n'y a pas juste moi qui le dis, les instances médicales le disent, et ça, c'est à travers le monde. On fait trop, Isabelle, de tests d'imagerie médicale. Donc, moi, j'ai
des IRM,
des résonances magnétiques, des radiographies, des scans de routine. Et c'est déconseillé de faire ces tests-là.
Mais c'est des rayons X.
Parce que c'est des rayons X, mais pas seulement ça, Isabelle, c'est que ça induit les gens en erreur. Il y a plein de gens qui ont des hernies discales, qui ont 50, 60 ans et qui n'ont aucune douleur au dos. Donc, une hernie discale cause pas systématiquement un problème. Donc, si vous avez une résonance magnétique qui vous dit que vous avez une hernie discale, ça prend un examen clinique, comme je le décrivais tout à l'heure, pour pouvoir faire le lien avec votre douleur. Donc, ça, c'est important. Et je pense que dans le sous-titre de mon livre, c'est « Arguments musclés pour prendre votre santé en main », mais d'avoir des arguments aussi pour discuter avec notre entourage, avec les professionnels de la santé, pour pouvoir aller au fond des choses.
Ils ont tout le temps de discuter, tu penses?
Ben, en fait, oui, il faut prendre le temps de discuter. Et si ils le prennent pas, ben, faut l'exiger au moins de répondre à 2-3 questions fondamentales. Et ça, le traitement, c'est ça aussi. Moi, je connais plein de médecins, Isabelle, qui prennent le temps de discuter, qui prennent plus que 30 secondes avec un patient. Il y en a plein des médecins qui font ça. Il y a plein de professionnels de la santé. À force de se dire, on discutera pas, on tombe dans le c'est normal à notre âge, puis ben, on reste pris avec ça.
On a Daniel avec nous. Bonjour, Daniel.
Salut Isabelle, si je peux aider une personne à m'avoir fait ma job, le Denis a dit quelque chose qui m'a fait réagir. Si vous avez un esprit sain, le corps va suivre, puis ça j'y crois. J'ai 55 ans, je fais pas de sport plus qu'il faut, je fais des push-ups le matin, une dizaine, mais je me tiens très actif, puis je prends aucun médicament, puis il y a même une compagnie d'assurance qui me croyait pas que je prenais aucun médicament. Parce que moi, j'y crois beaucoup qu'un esprit sain peut faire un corps sain. Mm. Peut-être que je suis dans le champ, mais moi, j'y crois, ça marche pour moi.
Ben, c'est super. C'est effectivement un très bon point. Merci, Daniel.
C'est un très bon point. La santé du cerveau, ouais. C'est absolument fondamental, même pour traiter de la douleur persistante et le fait de pratiquer de l'activité physique, Isabelle. Daniel nous dit, je suis pas un athlète, je suis pas un grand sportif.
Il fait des push-ups.
Ben, il fait des push-ups. Le fait de marcher régulièrement, le fait de bouger régulièrement sans qu'on soit nécessairement un athlète, c'est fondamental pour la santé du cerveau et même pour prévenir la douleur.
On a Daniel à nouveau. Bonjour. Un autre Daniel. Bonjour, Daniel.
Bonjour.
On vous écoute.
T'as compris qu'on a des douleurs, même si on va voir les médecins, il y a des fois qu'on n'est pas assez bien servi. Puis on entendait souvent, il y a un manque d'écoute. Puis on n'a pas le temps. Fait que bien souvent, on repart avec notre petit mal. À un moment donné, mais au lieu d'avoir un petit mal, c'est encore pire.
Oui, effectivement. Oui.
Effectivement, on prend pas souvent le temps de faire des examens cliniques, d'évaluer nos patients, mais moi, je veux absolument rajouter, Isabelle, parce que je veux pas qu'on lance la pierre aux médecins, mais je veux qu'on lance la pierre aux décideurs publics, par exemple, parce que de la prévention, on peut parler de la santé musculo-squelettique.
Ça fait combien d'années qu'on dit qu'il faut faire de la prévention?
Oui, mais là, il y a des gens qui doivent prendre leurs responsabilités, parce que là, ce qui se passe, c'est qu'entre autres pour les maladies chroniques, parce que ça aussi, c'est un sujet qui me tient à cœur, et le fait d'aborder ça dans mon livre, j'espère sensibiliser les gens à exiger cette prévention-là.
Très bonne question de Christian, qui dit, quand t'as pas de médecin de famille, c'est en lien avec ce que tu viens de dire, Denis Fortier. Qui consulter? Tu vas voir qui pour ton fameux examen de suivi? Mm-hmm. Là, tu dis que ça prend une évaluation globale.
Oui, si on n'a pas de médecin de famille, on a un problème. Je pense qu'on a
un méchant problème.
Je pense que la situation s'améliore. Par exemple, les gens ont de plus en plus un médecin de famille.
OK, à ça, l'autre affaire, c'est-tu quoi? Bon exemple,
oui.
Le mien.
Oui.
Moi, j'ai un médecin de famille, maintenant. Oui. J'en ai pas eu pendant des années. Là, j'en ai un. Oui, félicitations. Il est jamais joignable.
Ouais.
Moi, je suis comme avant, là. Je suis comme pas plus avancé, mais en théorie, j'ai un médecin de famille.
Mais c'est exactement pour ça que je parle de prévention. Le système de santé ne fonctionne pas. En 1900, on mourait des infections. Et notre système de santé fonctionne encore aujourd'hui comme si on traitait des maladies, comme si c'était des infections. Or, les maladies chroniques, c'est ce qui gruge le plus en termes de coûts de soins de santé. Et cette prévention-là nous permettrait de réduire les coûts adressés aux maladies chroniques pour essayer de vraiment aller les traiter à la base. Pourquoi faut attendre qu'on soit malade pour prendre soin de sa santé? Hein? Et là, on économiserait de l'argent et on pourrait vraiment répartir cet argent-là de façon beaucoup plus
fonctionnelle. Là, ça allait bien jusqu'à maintenant. On était de bonne humeur. Il y a un Québécois dans l'espace. L'amour, on pouvait le trouver au centre d'achat. Là, tu viens de nous casser ça, Denis. On va prendre une pause.
D'accord.
On va revenir tout de suite après. Il y a plein de gens qui veulent intervenir. On va vous donner la parole tout de suite après 514-790-9850. Alors là, avec l'âge, on se dit, est-ce que c'est normal d'avoir des douleurs partout? Vous faites souvent dire ça. Raymond, on vous l'a déjà dit, vous?
Ah oui, on me le dit. Ils ont pas besoin de me le dire. Je me le dis tout seul, Lisa. Puis le docteur, il a dit quelque chose tantôt. Puis moi, c'est pas parce que je fais pratiquer pas de faire d'exercice. À tous les matins, moi, j'étais un fidèle auditeur, puis je me mets la forme avec Paul Arcand puis le groupe, là, hein? La petite danse. Puis tout l'hiver, là, moi, j'étais à la retraite à cette heure, puis je suis plus capable d'aller travailler 8 heures. Puis tout l'hiver, moi, j'ai des contrats de neige, j'ai des commerces sur la rue où est-ce que je reste.
Ça, c'est difficile pour le dos, ça aussi, ça.
Ouais, mais j'ai pelleté, OK? J'essaye de me tenir, je vois tranquillement, je vois pas vite. Juste hier, là, j'ai pas pelleté de pain bout. J'ai juste été lavé en moto, là, puis mon recette patio en arrière, bon. Mais moi, je me réveille toute la nuit, j'ai mal. J'étais voir mon médecin, là, mon médecin. C'est en médecine interne, là.
Ouais.
Je change de résident tous les 6 mois.
Ouais.
J'ai mal dans les mains. Je suis même plus capable. La nuit, je me réveille. Je suis plus capable de me plier les doigts. Je dors avec deux affaires sur les genoux mes jambes.
Ah, oui,
j'ai travaillé toute ma vie dans le secteur minier. Faire des tunnels. J'ai toujours
C'est sûr, Raymond, que c'est difficile pour le corps. Denis, rapidement pour Raymond, parce que on parlait, c'est drôle, pendant la pause, des problèmes qui sont reliés aussi au manque de sommeil causé par la douleur. Oui. C'est le cas de Raymond, là.
Oui, tout à fait. Donc, de prendre soin de son sommeil, c'est déjà un bon début.
Mais là, il y a mal, lui.
Il y a mal, exactement. Et ça nous, le cas de Raymond, c'est vraiment très, très, ça nous illustre la complexité de la douleur chronique ou de la douleur persistante. On a besoin des équipes multidisciplinaires pour prendre soin de ces personnes-là. Et il y a aussi de l'information recommandations qu'on peut donner pour, par exemple, Raymond nous parle d'activités physiques. Est-ce qu'on connaît les activités par intervalle? Comment on peut utiliser les activités physiques par intervalle pour essayer de reprendre nos capacités, entre autres cardio-respiratoires? Mm-hmm. Donc, il y a des choses, qu'on peut, des conseils qu'on peut donner à Raymond là-dessus.
On a Pierre avec nous. Bonjour, Pierre.
Allô?
On vous écoute.
Écoutez, moi, il n'y a jamais personne qui m'a dit d'arrêter de faire du sport parce que j'avais mal. Je pense que chacun, on a notre seuil de tolérance au niveau de la douleur. Je fais 10 000 km de vélo par année. Je fais beaucoup d'entraînement et je vais voir un physio deux fois par mois et un chiro une fois ou deux ou trois mois.
Et ça vous coûte combien, Pierre?
Ben ça, on n'en parle pas.
Pourquoi?
Ben, c'est sûr que ça coûte cher, une séance en physiothérapie.
Non, mais il faut en parler, justement, puis on en parlait avec mon invité, Denis Fortier, parce que j'ai une médecin qui m'a écrit, c'est pour ça que je vous pose la question, Pierre, et la médecin disait, ben écoutez, moi, pour moi, c'est un allié, le physiothérapeute. Je trouve ça intéressant.
Absolument.
Et mais il dit en même temps, il faut poser là la question, combien ça coûte? Ben, parce que ça coûte pas 2 piastres, ça coûte au moins 75 $ de l'heure.
Exactement, exactement. Et puis, mais l'avantage, c'est que après, quand tu sors de là, le physiothérapeute te donne des exercices pour améliorer la musculation ou la section où tu as mal. Il va t'aider à renforcer cette section-là du corps.
Ouais. Donc, il y a des avantages évidents.
Absolument.
Ouais.
Et il y a un point important aussi. J'entendais tout le monde parler. Ah, j'ai mal là, j'ai de la misère à dormir. L'alimentation a un facteur énorme.
Ah, c'est fondamental. Vous avez raison, Pierre. Manger, un petit peu moins manger et manger mieux, c'est absolument fondamental et réaliser qu'on vit dans un environnement qui nous encourage à manger trop et à manger mal. Et quand on a compris ça, déjà, on a un bon bout de chemin de fait.
Et d'ailleurs, tu parles, Denis, dans ton livre, il y a tout un chapitre sur l'inflammation.
Oui.
Le taux d'inflammation dans notre corps est à la hausse. L'alimentation permet, le changement alimentaire permet d'aider notre taux d'inflammation. Ce sera le sujet. Écoute, il y a comme plein de sujets dans ton livre.
Et moi, je veux juste rajouter qu'il ne faut pas culpabiliser les gens parce qu'ils sont obèses ou sont gras. En fait, on a une responsabilité collective, mais de faire des petits changements, souvent, ça porte vraiment ça entraîne des améliorations significatives qui augmentent notre qualité de vie. C'est ce que j'ai voulu vraiment décrire.
Donne-nous ton site Internet parce qu'il y a plein de conseils que les gens peuvent aller voir dessus.
Oui, il y a un blog www.denisfortier.ca et vraiment, je pense que de transmettre des informations, déjà, ça peut aider beaucoup de monde, que ce soit par un livre, que ce soit par un blog comme sur mon site web. Et de poser des petits gestes, comme je le disais, de savoir par où commencer, de démêler tout ça. Et on peut vraiment préserver sa qualité de vie, prendre sa santé en main. Ça commence par des petites choses et moi, j'y crois vraiment, vraiment.
Merci beaucoup, Denis Fortier. Le titre de ce livre, c'est normal à votre âge, point d'interrogation. Vous avez eu la réponse. Non, c'est pas normal. Fait on se prend en main, puis on essaie d'aller voir son médecin aussi ou un physio si vous aviez des assurances ou si vous estimez que votre santé n'a pas de prix. On s'arrête ici tout de suite après la pause. Il y a un juge qui vient d'interdire la fonction haut-parleur du cellulaire au volant. C'est-à-dire que ça devient même un sujet de contravention. Une belle amende de 300 à 600 $. Imaginez. À tout de suite, tout le monde.